Bonjour Luc Fortin, merci d'être là avec nous aujourd'hui.
Merci de l'invitation.
Merci. Donc, je vais vous présenter un petit peu. Avant d'être à la course à la mairie, vous avez été ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie dans le gouvernement de Philippe Couillard. Si
exactement.
Parfait. Vous avez été aussi député de la circonscription électorale de Sherbrooke en tant que membre du Parti libéral du Québec à l'Assemblée nationale du Québec dans les élections 2014 à 2018.
C'est exact. Et non seulement j'ai été ministre de la Famille, j'ai été également ministre de la Culture et des Communications. Et avant ça, pendant 3 semaines, parce qu'il y a eu un remaniement assez rapide, j'ai été ministre délégué aux loisirs et aux sports.
Excellent. Peut-être une petite question là, pour commencer. Pourquoi la mairie de Sherbrooke?
Bien, j'ai toujours eu, moi, la passion de la politique. Hein? Depuis que je suis adolescent, même dans mon album de finissant en secondaire 5, j'avais écrit qu'un jour, j'allais faire de la politique, que je serais député. Alors, c'est arrivé assez rapidement, à 31 ans. Et pour moi, j'ai passé presque l'ensemble de ma carrière dans le service public, avec certains passages au privé. Mais pour moi, le service public, c'est vraiment ce qui me motive. Je suis un gars de sciences sociales, j'ai étudié en sciences politiques. Le contact avec les gens, j'aime beaucoup ça. Être au service de la collectivité, d'avoir l'impression de faire une différence aussi, que ce soit, oui, pour la collectivité, mais aussi pour des individus. Ça, pour moi, c'est une grande source de motivation à me lever le matin, à aller au travail. Alors, même après la défaite de 2018, c'était évident pour moi que j'allais refaire la politique un jour. Je l'ai même dit dans les entrevues le lendemain matin que j'allais me remettre au service des Sherbrookois. Alors là, ben, il est arrivé l'élection municipale, mais surtout arrivé le désistement de mon ami Vincent Boutin de la course à la mairie. Et moi, j'avais eu une réflexion il y a plus de 2 ans avec Vincent, justement, sur cette course à la mairie. Et pour moi, cette réflexion-là est arrivée un peu trop tôt, je pense, après l'élection provinciale, puis c'était trop loin de l'élection municipale. Et pour moi, à ce moment-là, ben, je voyais davantage mon avenir politique, peut-être retourner en politique québécoise ou ben, peut-être même en politique canadienne aussi. Et ça devenait très clair que Vincent allait se lancer dans la course et que j'allais l'appuyer. Alors, pour moi, ça a toujours été très clair. On est amis, je l'avais guidé là-dedans. Beaucoup de gens de mon entourage l'appuyaient. Mon épouse était dans son équipe de communication aussi. Alors, même au printemps, lorsqu'on m'a reposé la question, j'ai pas fait d'autres réflexions, puis la réponse a été la même. Mais à partir du moment où il s'est désisté, ben là, ça a amené une réflexion chez moi, parce que même si j'avais dit non encore au printemps, j'avais dit à ce moment-là qu'il fallait une troisième voie dans cette course-là, parce qu'il y avait plusieurs Sherbrookois qui se reconnaissaient pas en Évelyne Baudin et qui se reconnaissaient pas en Steve Lussier. Mais pour moi, à ce moment-là, cette troisième voie-là, c'était Vincent Boutin. Et là, ben, il s'est désisté. J'ai eu ma propre réflexion, puis je vous cacherai pas que beaucoup de gens qui m'ont sollicité aussi pour que je refasse une réflexion. Puis à un moment donné, quand tu te fais dire, ben, faut que tu changes d'idée, devrais y repenser, ben, ça force à la réflexion. L'appui familial a été là aussi. Même mon épouse était favorable à cette idée-là avant moi que je retourne dans l'arène politique. Puis on sait à quel point ça nécessite des sacrifices pour la famille, la vie politique. Donc d'avoir cet appui-là, pour moi, c'était riche. Et puis évidemment, ben, j'avais un emploi très intéressant, bien traité, avec des collègues extraordinaires, puis j'avais accepté des gros mandats au cours des dernières semaines, juste avant de me lancer dans la campagne. Alors, je voulais bien faire les choses aussi avec mon employeur, qui était très compréhensif. Fait que pour moi, ça, c'était la dernière barrière qui a tombé, et je me suis lancé dans cette course à la mairie.
Excellent, excellent. On va commencer avec le premier sujet, donc oui. Logement étudiant.
Oui.
Je vais mettre un petit peu en contexte. Présentement, plus de 60% des personnes étudiantes à l'Université de Sherbrooke consacrent plus de 30% de leurs revenus au logement. Et selon la SCHL, à partir de 30% et plus, la situation peut les amener à risquer de perdre le logement. Et qui, dans le fond, ça va faire qu'ils sont incapables de payer le logement à cause de ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là?
Bien, c'est une problématique, puis il faut rendre l'habitation plus abordable à Sherbrooke, non seulement pour les étudiants, mais pour l'ensemble de la population, parce que qu'est-ce qu'on a vu cet été? C'est une véritable crise du logement, oui, partout au Québec, mais ici à Sherbrooke, ça fait ses forts. Quand même, au plus fort de la crise, il y a 70 ménages qui se sont retrouvés sans toit. Il y a des familles qui se sont retrouvées à l'hôtel jusqu'à la 3e semaine de septembre. Alors ça, c'est des parents, c'est des enfants, et même ça a eu des implications par rapport à l'inscription à l'école, parce qu'ils ne savaient pas dans quel quartier ils allaient se retrouver. Alors, on ne peut pas se permettre de vivre ça d'année en année. Puis on le sait que là, qu'en 2022, là, ça va être encore pire. Puis même si on mettait en chantier des appartements aujourd'hui, ne seront pas prêts pour le mois de juillet. Alors, il faut être très réaliste là-dessus, mais il faut justement mettre davantage de ressources sur le terrain, comme par exemple avec l'Association des locataires, pour qu'on puisse, dès le mois de février, hein, à la période de renouvellement des baux, mettre des ressources pour accompagner les familles pour se trouver des logements. Alors, mais au-delà de ça, si on veut régler la question justement du coût qui est important pour le logement, pour les étudiants et pour la population, ben, il faut accroître l'offre de logements abordables. Et j'ai pris des engagements dans le cadre de la campagne électorale pour qu'on puisse avoir des moyens financiers pour investir davantage que ce que la Ville fait déjà. Donc, oui, on va maintenir les investissements, mais avec le fonds d'intervention prioritaire, on va faire encore plus pour accroître l'offre de logements abordables. Et ce, sans attendre après Québec, parce que c'est ça aussi l'enjeu, hein, dans le loyer modique, tout ce qui passe par l'OMH, donc qui est financé par la Société d'habitation du Québec, ben 50% du coût du logement est payé par le gouvernement du Québec. Alors, c'est l'enveloppe est déterminée aussi par Québec, mais moi, ce que je dis, il faut avoir nos propres moyens ici pour diversifier notre offre, que ce soit, oui, via l'OMH, via les coopératives d'habitation ou les OSBL d'habitation. Et là, ça aussi, ça peut être accessible aux étudiants. Donc, on va pouvoir bonifier l'offre comme ça. Il faut être très réaliste en même temps, qu'étant donné que le problème est très aigu, c'est pas demain matin non plus qu'on va changer dramatiquement la situation, mais il faut faire notre part, je pense, comme gouvernement de proximité. Et ça va nous donner la légitimité politique pour dire à Québec, bien, vous devez faire également encore plus votre part. Et lors de la prochaine campagne provincial, si je suis maire de Sherbrooke, je peux vous garantir que dans la liste d'épicerie qu'on présentera aux partis politiques provinciaux, ben, il y aura justement des sommes qui seront réclamées pour le logement abordable à Sherbrooke, dont des logements pour la population étudiante.
Puis avez-vous comme un nombre en tête de logements que vous prévoyez?
Ben moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se donner des moyens financiers pour qu'on puisse générer des projets puis peut-être avoir un effet de levier, que ce soit auprès du gouvernement ou des promoteurs privés. Mais entre autres, si on prend l'argent des crypto-monnaies puis on garde les revenus de 2020 là, d'Hydro-Sherbrooke, de l'argent des crypto-monnaies, c'est 3,5 millions de dollars de plus qu'on mettrait par année, parce que j'ai dit que ça serait 50 % d'enveloppe. Donc, sur la durée du mandat, 4 ans, ça fait quand même 14 millions de dollars de plus pour générer des projets, dont certaines sommes pour avoir un effet de levier. Alors, c'est certain que c'est au moins une centaine de logements abordables de plus qu'on va être capable de construire que ce qu'on fait déjà, mais peut-être on pourrait en faire plus parce que l'estimation demeure assez conservatrice.
Parfait, parfait. Peut-être l'autre sujet, il y avait aussi le transport en commun. Oui. Donc, principalement par rapport à la SDS. Oui. Comme vous savez sûrement, là, la majorité des personnes qui utilisent les transports en commun, c'est les personnes étudiantes. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir un siège sur le conseil d'administration, un étudiant ou une étudiante qui a un siège sur le conseil d'administration de la SDS?
Bien, moi, je vois ça de manière très favorable. D'ailleurs, lors du débat, je me suis engagé à ce qu'il puisse avoir justement un siège réservé à la population étudiante à la STS, parce qu'effectivement, et l'animateur du débat avait bien ramené ça, le principe de « no taxation without representation ». Oui. Et là, bien, il y a quand même une forte proportion, oui, de la clientèle de la STS qui est étudiante, qui n'est pas nécessairement des payeurs de taxes de Sherbrooke ou des contribuables sherbrookois, mais quand même qui utilisent le transport en commun. Alors, il faut bien desservir aussi cette population-là. Et je pense que c'est tout à fait légitime dans ces circonstances-là qu'on puisse réserver un siège à la population étudiante. Puis, non seulement pour veiller à la bonne administration de la STS, de voir qu'on répond bien aux besoins de la population étudiante, mais comment on peut mieux desservir les étudiants sur l'ensemble du territoire de Sherbrooke, parce que ça aussi, ça fait partie des enjeux. Et oui, même ici à proximité, où il y a une certaine densité de population, il y a des efforts supplémentaires à faire en termes de services. Je pense qu'il faut accroître l'offre de services sur certaines lignes, notamment les axes Est-Ouest, mais également dans la périphérie. Et ça aussi, j'en ai pris des engagements à ce niveau-là, parce que je donne toujours l'exemple du jeune qui est à Saint-Élie. Ça lui prend 2 heures pour aller au cégep de Sherbrooke. C'est pas normal. Puis c'est pas un incitatif à prendre le transport en commun.
Absolument.
Alors,
pas.
Il faut justement accroître l'offre de services dans la périphérie. Ce que j'ai dit, c'est qu'on allait installer, bon, non seulement des stationnements incitatifs, il y en a déjà. Comme par exemple, il y a un stationnement incitatif au centre récréatif de Rock Forest, mais c'est seulement pour les employés du CHU. Alors moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse multiplier les initiatives comme celle-là, mais avec des navettes express vers les principaux pôles de mobilité qu'on a à Sherbrooke. Donc oui, le CHU, oui, le Carrefour de l'Estrie, le Cégep, le centre-ville, mais également l'Université de Sherbrooke. Alors ça va faire en sorte que ce sera plus facile pour les étudiants de se déplacer ici sur le campus. Et l'autre avantage de ça, c'est qu'on parlait tantôt du logement, bien, c'est que ça va ouvrir des possibilités aussi aux étudiants d'aller plus loin sur le territoire pour pouvoir se loger à prix abordable parce qu'il va y avoir une offre de transport en commun aussi qui sera plus facile à utiliser.
Parfait, parfait. Puis, par rapport au réseau cyclable, est-ce que vous avez vous accordé une importance à peut-être instaurer plus de pistes cyclables pour se diriger vers de l'est à l'ouest de la ville? Parce que des fois, il y a comme des enjeux là, par rapport à ça. Là. Est-ce que vous avez des projets? Ou...
Bien, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on a augmenté de 25% l'enveloppe dédiée au transport actif parce que oui, il faut avoir plus d'infrastructures pour la mobilité active. Mais non seulement il en faut plus, mais il faut surtout que ça soit aussi plus sécuritaire. Mm-hmm. Alors là, c'est beaucoup un frein présentement à l'utilisation du transport actif, notamment le vélo, parce qu'on a certains endroits qui ne sont pas sécuritaires à Sherbrooke. On a vu encore récemment un accident sur le pont Terril ici, alors que la ville avait été interpellée à plusieurs reprises au cours des 4 dernières années. Il n'y a pas eu de changement. Il y a quand même des changements, des suggestions qui sont faites par Vélo Urbain Sherbrooke, par exemple, qui sont assez faciles à appliquer, comme par exemple lorsqu'il y a une piste cyclable qui croise une rue, un boulevard, bien, qu'il y ait un marquage vert, par exemple, qu'on voit dans certains quartiers de Montréal ou à Gatineau, où justement, on peut clairement identifier aux automobilistes de faire attention parce qu'il y aura là des cyclistes qui peuvent passer, même dans certains secteurs de Sherbrooke, même ici à l'université, tout près d'ici, on voit justement un marquage vert comme ça, mais ce n'est pas uniforme sur le territoire de la ville. Alors, pour les automobilistes, ce n'est pas facile à reconnaître. Donc, il faut aussi des investissements pour sécuriser nos infrastructures de transport actif. Et ce à quoi je me suis également engagé, c'est qu'on allait rendre permanent, ou en fait, on allait officialiser le comité aviseur technique où siège, par exemple, le Centre de la mobilité durable, Vélo Urbain Sherbrooke, la Chambre de commerce. Donc, les différents intervenants pour qu'ils puissent justement nous faire des recommandations sur les projets de mobilité pour s'assurer que ça soit vraiment sécuritaire et qu'on fasse un maillage entre la question de la mobilité durable et de la sécurité publique. Et c'est pourquoi aussi j'ai dit que j'allais garantir un siège à Vélo Urbain Sherbrooke sur le comité de la sécurité publique. Alors, comme ça, je pense qu'on va avoir un meilleur arrimage, puis on va réussir à rendre le transport actif plus sécuritaire pour les Sherbrookois, pour les étudiants également.
Parfait. Par rapport à l'enjeu environnemental, avez-vous des projets concernant la densification urbaine qui pourraient aider à minimiser le déplacement en voiture?
Bien, moi, ce que je prône beaucoup, c'est la question de la mixité dans le développement des quartiers pour limiter justement les déplacements inutiles. Moi, j'habite dans un quartier à Sherbrooke, donc le quartier Mi-Vallon, où on ne peut rien faire sans sa voiture à part aller à l'école de la maisonnée. Il n'y a rien alentour. Il n'y a que des maisons unifamiliales, il n'y a que des blocs appartements. Alors, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une mixité dans les quartiers, qu'il y ait des petits commerces, la petite épicerie, hein, le coiffeur également, la crèmerie, le café, pour qu'on puisse justement limiter les déplacements qui sont inutiles puis réduire nos GES, parce qu'on le sait que les 56 % des GES proviennent du transport de personnes, du transport de marchandises également. Mais donc, c'est une chose qu'on doit faire sur le plan environnemental, mais aussi pour la qualité de vie. Moi, quand j'habitais dans le Vieux-Québec, là, j'utilisais jamais ma voiture. J'allais travailler à pied, j'allais faire mon épicerie à pied, j'allais au restaurant à pied, j'allais à la bibliothèque à pied. Puis c'est quelque chose que j'aimais beaucoup parce que tout était facile, tout était à proximité. Alors, je pense qu'il faut retrouver ça ici. Il faut développer nos nouveaux quartiers de cette manière-là, mais aussi, quand on a des exercices où on a des possibilités de revitalisation de certains quartiers, qu'on puisse inclure également de la mixité dans ces quartiers-là.
Excellent. Par rapport au tri à la source, on en a parlé aussi dans le débat, là. Est-ce que vous avez pensé à une façon peut-être d'améliorer les performances de tri à la source, là, notamment avec aussi Valoris et tout ça? Là. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes.
Il y a beaucoup d'enjeux à Valoris. Mais en même temps, il y a des choses également qu'on doit faire pour... faciliter la vie des citoyens ou en fait éliminer certaines matières qui se retrouvent justement chez Valoris qui ne devraient pas se retrouver là. On est quand même en 2021 et pour le multilogement, ben, le recyclage n'est pas obligatoire à Sherbrooke. Dans beaucoup d'édifices multilogements, il y a la collecte du recyclage, mais ce n'est pas obligatoire. Et là, dans le plan d'action de la ville, c'est qu'on voit un déploiement ou une obligation pour 2028. Mais ça, c'est dans 7 ans. Alors moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut faire ça beaucoup plus tôt pour la question du recyclage. Il y a la question également du compost. Alors, il y a eu certains projets pilotes, comme par exemple dans les écoles, ce qu'on me dit, c'est que ça va bien de ce côté-là. Dans les blocs appartements, il y a peut-être un petit peu plus d'enjeux, mais en même temps, fort de ces expériences-là, de ces projets pilotes-là, je pense qu'on pourra s'assurer, au terme du mandat, d'avoir une collecte à trois voies qui sera disponible pour l'ensemble des citoyens sur le territoire de la ville de Sherbrooke et pour l'ensemble également du secteur commercial. Alors, je pense que c'est l'objectif qu'on doit se donner pour réduire justement tout ce qu'on envoie au centre d'enfouissement chez Valoris. Et non seulement ça sera bon pour l'environnement, ça sera bon également pour les finances de la ville parce que le coût d'enfouissement, il est très élevé. Alors, je pense que ce sont des gestes qu'on peut poser. Et l'autre chose également, je pense, qui a l'air anodin, mais qui pourrait faire une différence, c'est d'augmenter les heures d'ouverture des éco-centres, de nos deux éco-centres sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Parce que, tu sais, quand vous faites le ménage du cabanon, du sous-sol, tu sais, tout ce qui se cache en dessous de l'escalier, les vieilles cannes de peinture et tout ça, bien, c'est souvent la fin de semaine qu'on va faire ça. Et il y a certaines périodes de l'année où c'est pas ouvert 7 jours par semaine. Alors, je pense qu'il faut rendre ça davantage accessible à la population. Et puis, ça va peut-être faire en sorte que ça va être moins tentant pour certaines personnes de mettre le vieux galon de peinture à la poubelle si c'est plus facile d'aller à l'éco-centre. Alors, ça aussi, je pense que ça peut faire une certaine différence.
Puis, il y avait aussi l'enjeu avec le recyclage, là, dans le fond, là. Tu sais, des fois, les gens, dans le fond, ils vont pas diviser, ils vont pas séparer, en fait, les différentes matières de recyclage.
Adéquatement.
C'est un autre... Oui, c'est ça.
Et il y a beaucoup de sensibilisation à faire de ce côté-là, parce qu'il y a encore certains plastiques qui vont pas dans le bac de recyclage. Alors, il y a encore des gens qui se questionnent. Bon, le carton souillé, finalement, on met tout ça dans le compost, on met tout ça dans le bac de recyclage. Alors, en ce sens-là, il y a aussi un grand exercice de sensibilisation à faire. Récupestrie le fait quand même de manière assez régulière au cours des dernières années, mais c'est le genre de campagne, je pense, qu'on doit appuyer et qu'on doit bonifier pour s'assurer, justement, que les gens qui demandent à bien faire aussi, hein, là, des fois, c'est vraiment inintentionnel le fait que certains déchets ne se retrouvent pas dans le bon bac. Alors, il faut pouvoir mieux sensibiliser la population à cet effet-là.
Oui, bien c'est ça. Bien, c'est parce que ça avait été, dans le fond, les gens avaient parlé, pour le recyclage, c'était dit que les gens n'avaient pas besoin de trier, mais en fait, c'est pas réellement le cas, là, de ce que j'en ai entendu parler.
Exactement.
Là, le tri, quand c'est rendu au tri, ça se fait pas si bien que ça, finalement. Là, donc,
oui, même si à Récupestrie, ils ont maintenant investi pour deux nouvelles machines de tri optique qui sont très performantes, qui font en sorte que le carton, le papier est de bien meilleure qualité. Avant, on devait payer pour vendre les matières qu'on envoyait là, c'était quand même pas rien. Et maintenant, on reçoit des sommes substantielles. Alors, il y a eu un leadership de Pierre Havard chez Récupestrie, ça donne des résultats. Mais en même temps, si les gens font encore mieux le tri à la source, bien, on sera encore plus gagnant puis plus efficace, ça c'est certain.
Excellent. Puis peut-être pour les crédits de taxes,
oui.
J'avais une petite question aussi. Lors d'une vente d'un terrain industriel, présentement, est-ce que vous trouvez que les terrains sont vendus au juste prix et que les crédits de taxes sont octroyés de façon rentable?
Bien, moi, je pense qu'il faut réévaluer la question des crédits de taxes sur une base annuelle. Là, la ville de Sherbrooke vient de refaire cet exercice-là. Il y a un nouveau programme de crédits de taxes qui a été adopté à l'unanimité par le conseil municipal cet été. Je pense qu'il y a beaucoup plus de critères qu'il y en avait. C'est une bonne chose. Hein, on tient compte notamment du secteur d'activité de l'entreprise, du nombre d'emplois, de la qualité d'emploi. Il y a même un boni si, par exemple, l'édifice il est laid, il y a un boni environnemental pour le crédit de taxe. Alors ça, pour moi, c'est un pas dans la bonne direction. Mais on dit que c'est un programme sur 3 ans de 20 millions de dollars. Mais je pense qu'il faut avoir la capacité de revoir ça sur une base annuelle, cette question de crédit de taxe-là, parce que l'environnement économique, il évolue rapidement. Et il faut savoir s'adapter. Oui, il y a ce que les villes avoisinantes font. Hein. On est en compétition avec les autres villes, donc il faut s'adapter en fonction de ça. Mais par contre, il faut également s'adapter en fonction des politiques des gouvernements supérieurs. Comme par exemple, au moment où on a décidé d'avoir un crédit de taxe très généreux à la ville de Sherbrooke, on a dit que ça sera 100% pendant 10 ans. Il faut quand même aller revoir c'était quoi le contexte de l'époque. C'est où le gouvernement péquiste a fermé l'amiante, où ils ont fermé Gentilly à Bécancourt, puis ils ont octroyé des fonds de diversification économique substantiels à ces villes-là qui avaient des moyens financiers d'attirer des entreprises. Alors là, le conseil municipal de Sherbrooke de l'époque s'est dit, faut être compétitif aussi, puis faut avoir une capacité de séduire ces entreprises-là qui viennent s'établir chez nous. Alors, il faut pouvoir aussi s'adapter en fonction de ça, mais en fonction également de notre propre réalité économique, c'est-à-dire, est-ce qu'il nous en reste tant que ça, des terrains industriels à offrir, par exemple? Et là, on sait présentement qu'il n'y a pas d'autre zone qui est désignée. Il y a des projets, mais au moment où on se parle, il n'y a pas de nouvelle zone industrielle qui est désignée à Sherbrooke, alors il nous reste pour moins d'un an de terrain à offrir. Et aussi, c'est quoi la situation de la main-d'œuvre dans notre ville? hein, les entrepreneurs actuellement, mais il y a une pénurie. Puis ce que la dernière chose que les entrepreneurs actuels souhaitent, c'est qu'il y ait une multiplication de nouvelles entreprises, parce que même si c'est pas un compétiteur direct, ça devient des compétiteurs pour venir recruter la main-d'œuvre, puis ça affecte leur productivité. Alors ça aussi, ce sont des paramètres, je pense, qu'on doit tenir en compte. Et ça aussi, ça évolue rapidement, puis c'est pour ça qu'il faut se donner la capacité de revoir ça d'année en année, et aussi de voir si c'est justifié pour certaines entreprises dans des contextes qui sont particuliers, comme par exemple, dans le cadre de la zone d'innovation, qui visiblement sera octroyée par le gouvernement du Québec très bientôt à la ville, à l'Université de Sherbrooke, ben, on s'entend que les entreprises internationales, étrangères, qui vont vouloir venir s'établir à Sherbrooke, c'est pas en raison d'un crédit de taxe, c'est en raison justement de l'Institut quantique, de la capacité de recherche de l'université, de son rayonnement, de la main-d'œuvre disponible qu'elle peut offrir, qu'elle peut former dans ses programmes. Alors, même s'il n'y a pas de crédit de taxe, les entreprises viendraient quand même. Alors, c'est ça aussi, je pense, les questions qu'on doit se poser. Et puis, oui, d'avoir un programme qui est normé, que ce soit équitable, mais d'avoir justement une certaine flexibilité, de revoir ces paramètres-là d'année en année.
Oui, puis vous parliez d'être compétitif, mais on avait comparé avec d'autres villes, puis on était plus... Bien, pas, selon moi, on était vraiment très, très, très compétitif. Il y avait comme vraiment une
Absolument.
Grande différence.
Mais c'est ça, mais il faut le voir aussi. Puis moi, je ne lance pas la pierre au conseil municipal de l'époque, là, qui avait mis un crédit taxe très généreux. Ben, je pense qu'il fallait considérer, justement, le contexte de l'époque où il y avait des villes avoisinantes. Parce qu'Asbestos, devenu Val-des-Sources, ben c'est quand même à proximité de chez nous. Là. Alors, on est en compétition avec ces villes-là. Puis c'est sûr qu'on se compare, par exemple, avec Trois-Rivières, des villes qui sont un petit peu plus loin. Ben là, on perd, je pense, le contexte de l'époque. Mais c'est ça. Alors, il faut savoir s'adapter. Puis aujourd'hui, un tel crédit de taxe n'était plus justifié. Le conseil municipal a fait un pas dans la bonne direction. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin et réajuster ça d'année en année.
Puis, dans le fond, ben, monsieur le maire, il en avait parlé dans le débat, là, mais... Les prochaines octroisations de crédit taxe, ça va être plus pour des entreprises qui vont favoriser l'environnement puis tout ça, là?
Oui. Mais selon les créneaux d'excellence, entre autres, on parle des sciences de la vie et puis bon, tout ça. Et ce que je vous disais un petit peu tantôt, c'est qu'ils ont inclus des critères et des bonus environnementaux, entre autres. Alors ça, oui, c'est un pas dans la bonne direction. C'est le genre de critères qu'il faut maintenir. Mais justement, qu'on puisse... revoir peut-être l'enveloppe ou les pourcentages également selon les considérations économiques du moment.
Parfait. Puis est-ce que, quand vous parlez de revoir ça annuellement, est-ce que vous pensez que mettre en place une approbation référendaire lorsqu'il y a des décisions concernant le crédit taxe, ça serait une possibilité ou pas vraiment?
Bien, je pense que sur cette question-là, si on ouvrait la porte à une voie référendaire pour les crédits de taxe aux entreprises, il faudrait appliquer le même principe pour la taxation des particuliers. Et là, je peux vous garantir qu'on va se limiter les moyens d'action. Parce qu'on voit dans ce type d'initiative-là ce qui se passe, par exemple, en Californie, où il y a beaucoup de méthodes de démocratie directe. Alors, si on veut continuer à faire évoluer notre ville et à soutenir les services publics, moi, je pense que là, on s'embarque dans un précédent qui peut peut-être être dangereux. Alors, ça a toujours bonne bouche de dire « on va faire participer ». Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, puis on trouve toujours les taxes trop élevées. Hein? On veut toujours plus de services, mais on trouve toujours les taxes très élevées. Alors, je pense qu'il faut quand même être prudent et faire confiance aux représentants qui vont devoir justement rendre des comptes à la population puis se soumettre à l'électorat aussi aux 4 ans sur ces questions-là.
Parfait, parfait. J'avais pas d'autres questions concernant les crédits de taxes. Peut-être en terminant, est-ce que vous aviez peut-être un mot à dire aux personnes étudiantes?
Oui. Je souhaite inviter la population étudiante de l'Université de Sherbrooke à suivre attentivement la campagne électorale. Puis je sais là, qu'on sort d'une campagne fédérale, puis je le sens sur le terrain, une certaine fatigue démocratique un petit peu. Je dis, encore une élection. Mais en même temps, là, nous, on l'a pas choisi la date de l'élection municipale, on l'a fixée à date fixe. Et en même temps, les enjeux qui touchent la politique municipale sont très importants. Il faut pas sous-estimer l'influence des gouvernements de proximité dans notre vie au quotidien, puis pour les orientations futures. Puis surtout depuis 2017, le gouvernement du Québec a octroyé beaucoup plus de pouvoir aux municipalités. Ça vient avec davantage également de moyens. Pas encore assez, puis on souhaite en réclamer plus des gouvernements supérieurs, mais en même temps, on a davantage de leviers pour agir. Alors, il y a là des gestes concrets qui peuvent être posés, que ce soit pour l'environnement, le développement urbain, le transport en commun, la question du logement. Donc, des questions qui sont au cœur de la présente campagne électorale, c'est beaucoup des champs de compétences des municipalités, développement économique également. Alors, j'invite la population étudiante à s'intéresser à ça, à aller voter, que ce soit par anticipation, on ne peut pas oublier la date, la journée de l'Halloween, le 31 octobre, ou le 7 novembre prochain. Et moi, je peux vous dire que lorsque j'étais député, lorsque j'étais ministre, j'ai toujours été un partenaire de l'université. J'étais ministre de la Culture lorsqu'on a mis en place le projet pilote avec le Centre culturel et la Faculté de l'éducation pour faire des enseignants des meilleurs passeurs culturels auprès des enfants. Très heureux de voir que le gouvernement actuel a rendu ce programme-là permanent. Alors, on sait que c'est important de mettre nos jeunes en contact avec la culture. Et puis, les parents peuvent le faire, mais les enseignants également. Alors, et on sait que le contact avec la culture, bien, ça développe toutes sortes d'aptitudes, d'habiletés chez les enfants. Et bien, ce sont les publics de demain aussi. Alors, si on veut qu'il y ait des gens plus tard qui aillent voir nos spectacles, qui aillent voir nos films québécois, nos pièces de théâtre, qui lisent nos auteurs québécois, bien, il faut les initier rapidement à la culture. Et j'ai été également non seulement un partenaire de l'université sur le plan culturel, mais sur le plan sportif aussi. Pendant 2 ans, dans le cadre de mon mandat, j'ai été grand capitaine de l'équipe de football du Varéard. Alors, je me suis beaucoup impliqué au niveau du sport aussi à l'université. Alors, moi, c'est le genre d'implication que je souhaite poursuivre. Il y a 3 de mes 4 enfants, peut-être la 4e, il viendra également, qui a fréquenté Brin d'Univers ici. Alors, on vient prendre nos cours de natation ici également la fin de semaine. Donc, on est très, très présent sur le campus de l'Université de Sherbrooke. J'espère que mes enfants feront leurs études universitaires. S'ils souhaitent faire des études universitaires, qu'ils les feront ici. Alors, je souhaite que ce soit un campus qui soit bien desservi et surtout que nos jeunes qui viennent étudier ici à Sherbrooke aient le goût de demeurer à Sherbrooke ensuite. Et ça, c'est un grand objectif que je me fixe comme maire de Sherbrooke, c'est-à-dire il faut attirer la main-d'œuvre ici, il faut garder ici les cerveaux que l'on forme. On a besoin, justement, de ces cœurs, de ces bras, de ces cerveaux pour continuer à faire évoluer notre ville. Et moi, ce que je veux, bien, c'est offrir la meilleure qualité de vie possible pour convaincre ces gens-là de rester ici, puis aussi de dire à leurs amis, « Hey, habitez à Sherbrooke, c'est vraiment le fun, c'est la plus belle place au Québec. » Alors, c'est pour ça que les enjeux de la campagne électorale sont importants, puis que j'invite la population étudiante à les suivre attentivement.
Bien, merci. Merci beaucoup, M. Fortin. Merci pour votre temps.
Merci à vous. Merci de l'invitation.
Merci.